Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Comment se fabrique, au tout début, un animateur vedette de TF1, un gars qui depuis 24 ans, sans discontinuer, est dans votre poste à midi, et qui est le héros d'une série qui va signer sa 7e saison. Aujourd'hui, je vous raconte l'enfance, la jeunesse et les débuts de Jean-Luc Reichmann, qui sera là, tout à l'heure. Une histoire que je tire de son livre « T'as une tâche pistache » qui vient de sortir en poche chez Michel Lafon. Bettina Servant m'a aidé à l'écrire. Céline Lebras la réalise.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Ma tâche, cette tâche, me suit depuis que je suis né. Hé, t'as une tâche pistache ? Hé, qu'est-ce que t'as bu ? Nez rouge. Et viens là, l'alcoolique. Et la tâche, ta mère, elle a toujours envie de fraises ? Médicalement parlant, c'est un angiome, des vaisseaux sanguins ou lymphatiques anormalement dilatés. Une tâche de naissance qui, selon le cas, peut se révéler plus ou moins ancrée. La plupart du temps, à fleur de peau, elle disparaît sans laisser de traces. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Elle était trop profonde. Alors, faut faire avec. J'ai 5 ans. Et tous les mois, je monte avec ma mère dans la Dauphine. Elle n'a pas le permis, c'est mon père qui conduit. Direction l'hôpital. Ces couloirs interminables et lugubres. Je m'allonge, terrorisé sur la table, dans la salle de chirurgie dermatologique. Traitement à la neige carbonique. Et moi, je fixe les demi-globes métalliques suspendus au-dessus de ma tête et je les compte. Un par un. Parce que le traitement, c'est un supplice. L'impression qu'on me laboure le visage avec une aiguille. Ça laisse des marques sur ma peau, comme des entailles. Le médecin tente des subterfuges. Tu sais compter ? Jusqu'à 100 ? Je suis pas dupe, hein ? Mais je m'exécute. À chaque coup de laser sur ma peau, je fais grimper le score. 21, 22, 23, 24, 25. Et j'arrive à 100. Et c'est pas fini. Allez, compte encore. Jusqu'à 50. Alors je m'accroche à mon doudou. Je ferme les yeux. J'ai envie de fuir. Et après, le temps de la cicatrisation. Je redeviens l'objet de moquerie. Mon pansement fait le plus grand bonheur de mes copains d'école. Et la douleur laisse place à la tristesse et à la solitude. Mon unique consolation, ce sont les schtroumpfs qu'on m'offre comme récompense. J'en ai 200. Et je les ai encore, à la campagne. Mes enfants schtroumpfent avec aujourd'hui. Et à 6 ans, je dis stop. Ah, maman, j'en ai plein les schtroumpfs de ce schtroumpf de laser. C'est le dernier schtroumpf que je vais à l'hôpital. J'en ai ma schtroumpf. Parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Et moi, je n'en peux plus. Et nous décidons ensemble de ne plus y retourner. Il faudra définitivement faire avec. C'est une période difficile. Tout devient prétexte à piquer des colères, à devenir possessif, voire exclusif avec ma mère. Sentir tout le temps le regard des autres sur moi. Le moindre commentaire, je crois que c'est pour moi.
Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies?
Pourquoi moi ? Pourquoi ces plaisanteries qui tombent comme une condamnation ? La première fois, c'est à la campagne, chez mon grand-père, en Bourgogne. Devant le voisin, je suis fier sur mon petit vélo bleu.
Hé ? T'es tombé de vélo ? T'as le nez râpé ?
Je prends ça comme une gifle d'une violence inouïe. J'étais un enfant comme les autres sur mon beau vélo bleu. Et là, tout se brise. Je suis un nez râpé. Mes copains, n'ont jamais le temps de s'habituer à ma différence. Mon père est muté tous les ans dans une nouvelle ville. Et donc tous les ans, je dois en conquérir de nouveau, tenter de m'intégrer dans ce terrain miné qu'est la cour de récré, apprivoiser les regards, essayer de me montrer fort. En sixième, le prof de maths, Monsieur Poirot, me rebaptise.
Reichmann le Rouge, allez au tableau.
Il ne sera pas le seul à m'affubler de surnoms divers. Au lycée Saint-Joseph, chez les Jésuites à Toulouse, mon prof de français de la quatrième à la seconde, Monsieur Bouchard, m'appelle la tâche. La tâche au tableau. Quand on est ado, c'est insupportable. Même si grâce à Monsieur Bouchard, j'ai appris à aimer le français. Les gens me disent
« Oh, qu'il est mignon !»
Version originale sous-titrée. « Le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça se soigne? Vous vous êtes renseigné? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vont pas rester comme ça toute sa vie quand même. » Et moi, de leur faire pitié, je me sens blessé, voire handicapé. Et je vous parle pas des filles, quand je jouais les Don Juan du haut de mes 14 ans.
Oh, tu peux pas sortir avec un garçon comme ça.
Sans compter que pour certains, je suis en plus Reichmann, le Schleu, le Bosch, l'Allemand.
Eh ben, ils t'ont pas raté dans les camps, avec ta tâche.
Moi, dont le père au nom juif a vécu caché pendant la guerre, caché par un curé, dans la montagne. Le soir, quand je suis adolescent, je me mets face au miroir dans la salle de bain et sans faire de bruit, j'ouvre le tiroir de gauche, celui de ma mère, et je lui prends un peu de fond de teint et j'essaye de camoufler ma différence. Et quand je vais en soirée, je mets le fond de teint dans ma poche. Et quand j'arrive, je m'en remets une couche comme ça dans le rétroviseur de ma mobylette. On n'en a jamais parlé de ça avec ma mère. En famille, on n'en parle jamais de ma tâche. Cela dit, devant ma glace, quand je me vois avec ma tâche masquée par le fond de teint, eh ben je me sens moins bien. Je ne me reconnais pas. Je ne m'aime pas. Mais celle qui m'a vraiment aidé à grandir sans qu'elle le veuille, c'est ma petite sœur, Marie-Laure. Petite, quand le téléphone sonnait, elle ne bougeait pas. Elle ne tournait pas la tête. On l'a su quand elle avait 3 ans. Marie-Laure est sourde. Déficience auditive à 85%. Elle ne parle pas, elle crie. C'est une super brailleuse. Et moi, mon problème se déplace. Je ne suis plus celui qu'on montre du doigt. Je deviens le grand frère responsable, investi d'une mission protectrice. Ma tâche ne m'empêche pas de voir. Elle ne m'empêche pas d'entendre. Il y a pire. Il y a bien pire. Je tiendrai tête à l'adversité. Je suis têtu de naissance. Mon père m'appelait idée fixe. Je suis une sale bête. Je suis un scorpion. Je ne renonce pas. J'ai une autre échappatoire à ma tâche. Une bouée de sauvetage que je pourrais enfiler quand je veux. Le rire. Faire rire. Faire rire les autres, rire avec eux. Mais ne jamais rire d'eux, hein. Se moquer, c'est si facile, j'en sais quelque chose. Faire rire en restant gentil. Un truc de funambule. Et je sens que c'est par cette voie que je trouverai mon équilibre. Alors, adolescent, j'imite le proviseur en pastichant Daniel Guichard.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux.
Et puis j'imite Giscard, Georges Marchais, Chaban Delmas. En vérité, j'imite Thierry Leluron. Mais les gens rient, et les filles me sourient. Et le fait d'improviser comme ça ces imitations, ça me procure une dose d'adrénaline. Un truc que je n'imaginais même pas. T'as 14 ans ? Je réclame une mobylette à mon père.
Ah, mais tu te la paies ? Ah ben, avec l'assurance, l'essence. Et si on te la vole, bah écoute... Bon, d'accord. Tu penses que je peux trouver un travail d'été à Mammouth ?
Il y travaille. C'est le directeur. Il me trouve un job au rayon charcuterie. Levé 3h du mat, au boulot à 4h. Je fais du pâté de porc, je coupe des têtes de cochon en deux, j'enlève la cervelle, les yeux, je grille les derniers poils. Et surtout, je fais rire mes collègues avec mes imitations de Coluche. Du coup, mon chef me dit
« Ton bagou, là, utilise-le. Utilise-le à bon escient. »
Et il me colle sur le parking du Mammouth pendant les 5 jours anniversaires.
« Et venez voir, il y a le fils du directeur qui sème la cisanie sur le parking. »
Et au final, à 14 ans, en 5 jours, je vends 4 tonnes de saucisses de Toulouse. À 11,90 francs le kilo, ma mobylette, je me la suis payée. Mais le rire ne suffit pas à faire oublier mes soucis d'ado entachés. Alors je demande à mes parents de m'inscrire avec mon frère au karaté. Mon frère, qui est stylé baba cool et qui est fou de musique, trouve que c'est trop violent. Il arrête assez vite. Alors que moi, je veux devenir Jean-Bruce Luc Lee. Bruce Lee me fascine. Je suis subjugué par cet Elastic Man qui bondit en hurlant des... Ah ! Mon prof s'appelle Lilian. Il est ceinture noire. Devenu champion de France de karaté contact. J'ai 14 ans. J'adore ce gars de 20 ans plein de vie et d'envie. Il s'en fiche de mon angiome. Il ne me parle que de ma souplesse, d'adaptabilité face à l'adversaire, de rapidité de déplacement, de tout ce qu'on va travailler. Il me parle d'avenir. Je veux me forger un mental, me connaître, me comparer, être bien dans ma tête et si possible dans mon slip. Mon bac en poche, je dois démontrer à mon père que je prends la bonne direction. Et donc, pour lui faire plaisir, j'essaye Subduco, une grande école de commerce. Mais au moment de passer les oraux, comme le costard, la chemise et le bureau, je ne le sens pas. Et qu'on me propose d'aller travailler en Tunisie comme moniteur de voile, guide accompagnateur et super DJ, eh ben j'y vais. Pour mon père, c'est pas facile, hein. Mais c'est mon histoire à moi. D'autant plus que juste après, j'enchaîne avec un boulot de guide accompagnateur en Andalousie. Et puis je rentre à Toulouse, où en principe m'attend Chantal, ma petite amie depuis 4 ans. Mais elle m'a pas attendu. Elle vient d'épouser un parachutiste. Quel con ! D'autant que maintenant, après 2 saisons d'absence... Je dois trouver un boulot. Je repars à zéro, sans aucun réseau. On est en 1981. Et pour commencer, je m'inscris au chômage. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et là, mon pote Pampan, qui est plombier, me donne un tuyau. Eh bien, figure-toi que je suis allé réparer une fuite dans la cave d'une maison à Malieu. Eh bien, dans la cour... Dans une caravane, figure-toi qu'ils ont installé une radio. Et donc, je leur ai dit, moi, j'ai un copain qui va vous raconter des histoires dans le poste. Mais oui, t'arrêtes pas de raconter des conneries, va plutôt les raconter à la radio. Et t'as pas le choix, hein. T'as plus d'argent. Radio des Coteaux. Je commence par y raconter des histoires drôles le dimanche matin, bénévolement. Et puis, au bout de quelques mois, la directrice d'une radio concurrente, Radio Cambos, me contacte.
Bon, je t'écoute tous les dimanches, hein. Tu me plais bien, oui. Tu as le contact avec les auditeurs. Alors écoute, on va bientôt recevoir le chanteur de Rocamadour ici, là, Gérard Blanchard. Tu vas l'interviewer. Et si t'es bon, eh bien, je t'engage et je te paye.
Le bémol, c'est que je n'ai jamais interviewé qui que ce soit. Et donc le jour J, je me retrouve en direct face à Gérard Blanchard.
Merci à tous, c'était Gérard Blanchard sur Radio Cambos 93.6 MHz. N'oubliez pas d'aller acheter son disque dans toutes les bonnes boulangeries.
À bientôt, Gérard, peut-être.
Pourquoi peut-être ?
La directrice me convoque dans la foulée.
Bon, le problème, c'est qu'on savait plus qui interviewait l'autre. En plus, vous aviez le même timbre de voix, c'était compliqué pour l'auditeur de faire le tri. Hein. Il faudra que tu fasses attention à l'avenir, ok ? Tu as le poste. Tu commences lundi à 8h30.
Je repars au volant de ma Diane 6. Je mets Radio Campos à fond. Et je hurle. Mon amour est parti avec le loup dans les gorges de Rocamadour. Ma voix va maintenant sortir du poste tous les jours. Pour arrondir les fins de mois, je fais aussi des voix publicitaires et des animations commerciales dans les supermarchés.
Attention, vente flash, moins 10% sur les radis pendant 5 minutes. Et pour 2 bottes achetées, on vous offre la 3e.
Et puis un jour, je suis derrière ma console à Radio Campos.
Salut! Est-ce que je pourrais parler à l'animateur?
Oui, c'est moi.
Je suis Dodo du Forest, d'Énergie à Paris.
C'est ça, ouais. Et moi, je suis l'un des Beatles.
Et je raccroche. Et il rappelle.
Ne raccroche pas, hein. Je suis le vrai Dodo du Forest. Dis-moi, je suis de passage à Toulouse. Tu connais un café où on pourrait boire un coup ensemble ?
Énergie Toulouse vient de se créer. Et il me propose d'assurer le 6-9. 6h-9h. On ne parle pas d'argent ni de contrat. Mais je suis raide dingue de bonheur. Et voilà comment le micro va devenir une vraie drogue. Le 10 juillet 1984, j'ai 23 ans. Je suis au guidon de ma moto 600 XT, jean bleu délavé, chemise à fleurs déboutonnée à la Magnum, les cheveux au vent, j'ai juste un petit casque blanc, pas un intégral, j'ai jamais supporté de me sentir prisonnier d'un gros casque. Dans 5 minutes, je serai chez mon copain Eric, le roi de la mécanique. Avec mon copain Pampan, on s'apprête à partir en vacances, en moto, en Italie. Je me souviens parfaitement du croisement d'avant. Je roule à 90. En face, dans sa R6, il roule à 90. Choc frontal à 180 km/h. Bam ! J'entends encore le bruit, c'est insupportable. Et sous le choc, le capot de sa voiture se relève, il me découpe au passage le bras gauche en lambeaux. Je fais un vol plané et j'atterris à 39,75 m du point d'impact.
À mon avis, il est mort, hein ?
Non. Non, je suis dans le coma. 18 fractures, 130 points de suture, la rate éclatée, les muscles scalpés. Quand je sors du coma, je me retrouve en soins intensifs, intubé par tous les orifices. 9 mois d'immobilisation. Et la douleur ! Pendant des mois, je ne peux pas dormir, elle ne me lâche pas. Je demande un miroir. Ma tache a disparu, je suis un hématome géant. Où trouver la force pour résister à la tentation d'abandonner? Peut-être dans les mots de mon grand-père.
Jean-Luc, le docteur t'a dit, t'as 1 chance sur 5 de t'en sortir. Et moi je te dis, si t'as 1 chance sur 5, eh ben prends-la.
J'apprends que les auditeurs demandent souvent de mes nouvelles. Je décide de leur parler à l'antenne, en direct, par téléphone.
Est-ce que vous allez revenir, Jean-Luc ? Bah écoutez, je vais essayer de me remettre, hein, au plus vite, et puis dès que je pourrai, je vous rappellerai.
Et j'appelle comme ça, tous les lundis, pour faire des petits points à la radio. Ça me motive. La moto a toujours été et sera toujours ma passion. Et la preuve, c'est que j'ai toujours mon plâtre et mes béquilles. Et je vais m'en recommander une autre. J'ai repris ma place à la radio. Entre-temps, Énergie Toulouse est devenue Fun Radio. Et puis un jour, en 1986, on me convoque. T'es plus dans le format, Jean-Luc. On est devenu une radio musicale. Toi, tu parles trop. En version sous-titrée, tu prends la porte. Plumé, alors que je viens d'investir toutes mes économies dans un petit appart à Toulouse. Et puis mon pote Olivier, qui était mon voisin de tranche horaire sur Énergie Toulouse, est monté à Paris. Il a intégré la dernière née des chaînes de télé, la 5.
Dis-moi, on est en train de monter un nouveau jeu, là, qui s'appellera La Porte Magique. Et si tu veux être mon assistant sur la sélection des candidats, eh ben, je t'attends à Paris, lundi prochain.
Je prends direct la Nationale 20. Pas l'autoroute, hein, j'ai pas un franc pour la payer. Et je débarque à Paris, rue Jean Goujon, le fief de la 5. J'ignore tout du travail de casting. Et je ne connais personne. Stéphane Collaro est dans le bureau d'à côté, Patrick Sabatier, Patrick Sébastien. Je parviens à me faire un seul ami, le chien, le bobtail de Sabatier. Et donc, mes journées sont rythmées par les appels des candidats. Et moi, j'aime leur parler. Je leur raconte des histoires, je les fais rire. Et du coup, on me demande d'accompagner les candidats sur le plateau. Et je deviens chauffeur de salle. À côté de ça, je frappe à toutes les portes. Et ma mère est inquiète.
Ça va, Jean-Luc, t'es sûr?
Ça va, maman, ça va. Un jour, je finirai par décrocher quelque chose. Hein. Un jour, ce sera peut-être le triomphe. J'ai dit ça parce que j'avais l'Arc de Triomphe devant moi, sous les yeux. Vous connaissez la fin de l'histoire. Je ne vais pas vous raconter tous les épisodes, les castings, les échecs, les réussites qui ne durent pas. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, une carrière à la radio, à la télé, une carrière de comédien. Il y a des hauts, il y a des bas. Une dernière pour la route, néanmoins. En 1994, Béatrice Esposito, qui est responsable des variétés et du divertissement sur France 2, me fait faire mes premiers essais d'animateur télé. Elle veut voir comment je passe à l'écran. Le test a lieu sur le plateau d'Une Famille en Or. Les cadreurs sont morts de rire. Et je suis finalement retenu comme animateur d'un jeu. Les Amours. À cet instant, je prends conscience qu'une nouvelle vie commence. Je suis heureux. Et le lendemain de la première, je me fais assassiner par le chroniqueur d'Europe 1, Philippe Aubert.
Oh, alors j'ai vu Les Amours sur France 2 hier midi avec un dénommé Jean-Luc Reichmann. Les mimiques, les cheveux longs, les chaussures jaunes, le type arrête pas de gesticuler. À mon avis, Les Amours à la télé avec lui, c'est sûr qu'il n'y en a pas pour longtemps. Hein.
J'écoute ça, seul dans ma chambre. Tout s'effondre. C'est comme si j'avais reçu une boule de pétanque sur la tête. À cette époque-là, il est à nouveau question de ma tâche. Les mêmes mots que quand j'étais enfant.
On peut pas le montrer à la télé avec ce truc-là sur le nez.
Et donc au maquillage.
Bon, pour la tâche, si ça t'embête pas, hein. On va la maquiller un peu, hein, ok?
On m'explique très gentiment que c'est pour éviter les brillances. Alors je m'incline. Mais au fond de moi, la corde sensible n'est pas loin. En me cachant ma tâche sous le fond de teint, on cache une partie de moi. Alors juste avant d'entrer sur le plateau, j'humecte mon index avec la salive et j'enlève le maquillage sur ma tâche. Et un an plus tard...
Bon, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est plus possible. Soit vous me prenez avec ma tâche, soit j'arrête.
À partir de là, on me prendra comme je suis, avec ma marque de fabrique.
Mon histoire s'arrête là, votre livre va plus loin, Jean-Luc.
Merci.
On va y revenir, bien sûr, sur cette tâche qui débute et termine cette histoire, mais, et qui est aussi le titre de votre livre, mais enfin. D'un bout à l'autre, en écrivant cette histoire, je me suis dit, c'est quand même dingue, parce que c'est juste une rougeur sur le nez.
Bien sûr.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas Elephant Man, vous n'avez pas de pieds beaux, vous n'êtes pas un firme moteur cérébral, enfin, physiquement, vous êtes pas désagréable à regarder. Et je me suis dit, au fond, c'est juste une différence, quoi. Et encore, dans la catégorie des différences, c'est une toute petite différence.
Oui.
Et pourtant, ça met le why dans votre vie.
Oui, ça met le why, mais finalement, Christophe, c'est devenu une marque de fabrique, quelque part. Il est vrai que là, récemment, j'étais pour les pièces jaunes chez Disney, puisque, évidemment, j'accompagne, comme vous le savez, les enfants, les adolescents. Et ils m'ont dit, mais je vous ai reconnu grâce à votre taf, les enfants, donc c'est devenu une marque de fabrique. Et maintenant, et c'est ce que j'écris dans le livre un petit peu plus tard, c'est cette différence que les enfants doivent cultiver pour faire leur différence. Mmh. Et au final, voilà, maintenant, c'est une marque de fabrique qui me suit.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça a été votre chance, finalement, pour vous faire remarquer?
Mais vous savez, quand je dis t'as une tâche pistache, c'est de se moquer et de prendre le revers de tout ça. Et finalement, voilà, si cette souffrance maintenant rimait avec le mot chance, comme vous le dites si justement, donc au final, le négatif, je crois qu'il faut arriver à le transformer en positif. Les ennemis, il faut en faire des meilleurs amis. J'ai toujours été, c'est comme je le dis dans mon livre, c'est toujours plus difficile d'être positif que d'être négatif, d'être gentil. Vous avez le micro tous les jours, je vous écoute en plus et je vous respecte énormément. Depuis encore plus fort que vous êtes narrateur comme ça, quel voyage vous nous faites faire. Mais à un moment, quand on est face à quelqu'un, c'est la facilité de l'enfoncer parce qu'on a le micro, parce qu'on a la voix, alors que c'est quand même plus difficile d'arriver à le mirifier, parce que même si on a 5% entre vous et moi, 10%, 15%, 20% voilà, d'un réservoir commun, il faut aller chercher le bon quelque part. Et ça, j'en suis intimement persuadé.
Mais ce qu'on voit quand on regarde le monde des animateurs télé, j'ai raconté plein d'histoires ici, de gens qui font le même métier que vous, c'est que ce sont tous des hypersensibles, que souvent cette hypersensibilité naît d'une différence, et que c'est à se demander si pour faire le métier que vous faites, il ne faut pas être d'une certaine manière différent. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'homosexuels à la télé, ben c'est parce qu'ils étaient différents petits, et que du coup, ça leur a donné cette force que vous avez trouvée.
Aujourd'hui, ça marche. Mais hier, rappelez-vous, puisque nous avons vécu les mêmes choses en parallèle, très certainement, il fallait être le gendre idéal. N'oublions pas, c'est-à-dire que, voilà, on ne va pas refaire l'histoire, mais la première fois que j'ai proposé de mettre des couples homosexuels sur le plateau des Amours à Michel Cotin et à Monsieur Duhamel, on m'a regardé en disant, mais c'est pas possible, on va faire des spéciales homosexuelles. Je dis, pardon ? Non, il va y avoir des couples homosexuels. Je vous parle de ça en 1998.
Ouais.
Donc c'est une histoire de fou, à l'époque du Black Blamber.
Mais peut-être
rappelez-vous.
Peut-être que c'est irréductible, c'est-à-dire sans doute qu'un gamin qui aujourd'hui a un angium comme vous sur le visage, subit très exactement la même chose dans
mais
la cour de la même école et du même collège.
Mais bien évidemment. Mais justement, comme je vous le disais, c'est cette différence que nous devons cultiver. Ça nous donne des émotions. Aujourd'hui, on a plein d'émissions à la télé ou à la radio, comme la vôtre, qui sont sur la vérité, sur la simplicité, sur les émotions et sur l'être humain. Lorsque je vous écoute à la radio, c'est cette sensibilité maintenant que l'on recherche. Terminer les gendres idéaux et ouf, grand bien nous fasse chacun, parce que on s'est battu, vous et moi, pour ça. Et vous, on est dans la même tranche d'âge, je pense, et à aujourd'hui, voilà, s'il y a une fierté à avoir, c'est de se dire, voilà, de ma tâche, du côté négatif, et ben pistache, on s'est moqué de l'histoire et on s'en amuse aujourd'hui.
Toujours au sujet de votre tâche, j'ai une question. À votre avis, si à l'époque, la maîtresse ou le prof avait posé ça sur la table de la manière la plus simple possible, vous auriez pu expliquer ce que c'était, qu'effectivement vous ne pouviez pas la faire disparaître, mais que vous ne pensiez pas que ça allait ruiner votre vie jusqu'à la fin des temps. Au fond, si on avait posé les choses comme ça, le plus calmement possible, ça n'aurait pas désamorcé et évité ces souffrances de l'enfance qui sont des petits traumatismes.
Aujourd'hui, on peut le faire, Christophe. Mais à l'époque, hier, on pouvait pas le
faire. Dans les années 60, on
lorsque,
parle.
Hein. Mais bien évidemment, vous savez, lorsque un prof, comme vous l'avez dit, si justement, et merci encore sincèrement pour cette narration qui est magnifique, parce que je m'entendais, j'entendais les profs, quand un prof, à l'âge de 14 ans, vous dit la tâche au tableau devant 30 élèves, vous avez envie de le prendre et de le retourner et de lui dire, mais c'est pas possible, la souffrance d'un adolescent. Hier, ce n'était pas possible, Christophe. Aujourd'hui, maintenant, on peut en parler parce que nous sommes en 2020.
Encore
aujourd'hui, ils sont quand même montrés du doigt parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite au niveau de l'information. Elle est galopante. On ne peut plus maintenant dire la tâche au tableau. Et heureusement, et si les réseaux sociaux servent à ça, eh bien, grand
bien. Vive les réseaux sociaux
pour le coup. Mais bien sûr, pour le coup, oui.
Cela dit, Monsieur Poirot, il a dû se faire chambrer aussi parce qu'il s'appelait Poirot.
Ah oui, les Poirot, c'était en sixième, Bouchard aussi, non mais je me rappelle très bien. Mais aujourd'hui, juste pour corréler avec ce que vous dites, Léo Mattei sur la brigade des mineurs dont vous avez parlé, et qui va voir le jour là bientôt sur TF1, la brigade des mineurs, c'est que les enfants soient victimes ou coupables, Léo Mattei est toujours du côté de l'enfant, et c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, je me bats pour les enfants, je me bats pour les adolescents, et même si ces vecteurs de réseaux sociaux peuvent être totalement néfaste, c'est pour garder ce contact avec toutes les générations et essayer que les parents, les grands-parents et les enfants soient réunis ensemble autour du même écran télé.
Pourquoi est-ce que vous n'en parliez pas en famille ? Ça m'a surpris.
La
Parce
pudeur,
qu'on sent vos parents assez ouverts.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Mais on n'en parle pas, quoi.
La pudeur... C'est pas évident, vous savez, quand vous avez des parents qui ont connu la guerre, un papa qui est arrivé, comme vous le savez, dans un wagon à bestiaux quand même, de la Tchécoslovaquie à l'époque, c'est très très dur, la pudeur est insupportable. Mon papa ne m'a jamais dit je t'aime, moi je lui ai dit je t'aime, ma maman me le dit très 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 rarement, et j'aime ma maman plus que tout évidemment. Ce ne sont pas les mêmes sociétés d'hier et d'aujourd'hui.
Ça aurait été mieux qu'il parle, ça aurait été mieux qu'on en parle à table, qu'on en rigole éventuellement.
Mais voilà, ça aurait été voilà, ça a été ainsi, c'est comme ça, vous avez eu une éducation, j'ai eu une éducation, nous c'était la pudeur, c'était mon papa, vous savez, c'était je n'entends rien, je ne dis rien et je ne vois rien, je vous promets que c'est vrai. Moi je lui ai dit, tu sais, mais moi papa, je dis tout, je vois tout et j'entends tout. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi la toile aujourd'hui qui nous a permis de dire tout ça.
Ce livre, T'as une tâche, pistache, où le sujet est dans le titre. C'est-à-dire, on voit dès le début que vous n'allez pas éluder ça.
Bien sûr.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport avec le public ? Est-ce que c'est une question, du coup, qui est réglée ?
C'est pas le... Ça a changé quelque chose avec moi-même, parce que j'avais envie de dire ça.
Ouais.
Et après, le public reçoit, ne reçoit pas, mais ils savent maintenant, et s'ils ont la curiosité de connaître mon parcours, et je vous remercie encore, parce que c'était vraiment des mots justes et une interprétation. J'ai même cru entendre la dauphine et la mobilette.
Enfin, mais c'était une vraie dauphine. Donc, pas avec Céline Lebras, on rigole pas avec ça. C'était une vraie dauphine.
On sent la
une vraie mobilette. C'était le vrai jingle de Radio Cambodge que j'ai retrouvé sur
c'est
Internet.
C'est une histoire de fou.
Et je sais pas si votre copain Pampan, il zozote avec l'accent de Toulouse ou pas.
C'était un petit peu ça. Non, mais c'était une histoire de fou. Donc, voilà, c'est aujourd'hui ce qui me plaît pour répondre à votre question. C'est que je suis surtout en accord avec moi-même et que même si j'ai mélangé les chapitres, etc., etc. Voilà, les gens qui seront curieux de connaître ce parcours du comédien de Léo Mattei, de Nuit d'ivresse, parce que voilà, j'ai joué avec un homosexuel, j'ai demandé à Josiane Balasco de jouer la version homosexuelle pour une ouverture d'esprit. On a fait 180 dates au théâtre, ça a été une histoire de dingue. L'année dernière, ça a été diffusé sur TMC, voilà, ça a fait un record de spectacles vivants, plus fort que les concerts, plus fort que les one-man shows. C'était le record de l'année dernière, en 2019, sur la TNT, donc j'ai cette fierté-là aussi. Et si ça peut faire avancer les choses, voilà, je l'écris, et pour vous répondre, voilà, ouais, je me sens mieux.
Oui.
Ouais. Mais pas par rapport aux autres, par rapport à moi.
Avant, les journalistes, par exemple, qui vous recevaient pour la promo de vos émissions,
ils me regardaient de biais.
Ils vous en parlaient pas.
Ils me regardaient de biais.
Personne n'osait.
Non. Mais c'est génial.
C'était un truc tabou, quoi.
Ouais, c'était un truc tabou. C'est, mais vous avez présenté comme ça, mais, et quand les maquilleuses vous disent, Non. Ouais. Oui, mais
elles
ça
vous
va
disent
briller.
Encore aujourd'hui?
Aujourd'hui, elles me disent, oui, je sais.
Ouais. Oui, j'ai lu le livre.
Non, j'ai pas lu le livre, mais je ils sais, savent.
Question réglée.
Bah oui, parce que, en fait, voilà, j'ai un journaliste qui m'a dit que j'en étais à plus de 9000 émissions de télé à aujourd'hui, le 365 jours par an, vous le connaissez par ailleurs.
Ouais.
Donc ça fait 25 ans, j'attaque ma 25e année.
Et puis comme vous êtes sur une petite chaîne, qui a quasiment pas de...
Voilà, entre voilà, les
parce
les
que Léo Mattei, ça fait plus de 7 millions. Hein.
Voilà, c'est ça, il y a eu Mattei, il y a Victor Sauvage avant, il y a eu plein de choses. Donc voilà, maintenant, maintenant ils savent et je suis très très content parce que c'est pas évident de s'exprimer et d'être rassembleur, que ce soit par la fiction, le théâtre ou la quotidienneté du jeu et du divertissement. Mais quoi qu'il arrive, on tient le bon bout, Christophe.
Alors il y a un passage qui évidemment a marqué les esprits par les temps qui courent, c'est ce moment où vous êtes en job d'été chez Mammouth, dans le magasin Mammouth en fait de votre père, dont il est le directeur, et où vous coupez des têtes de cochon en deux pour en sortir la cervelle et ensuite les yeux. Il doit pas y en avoir des masses à TF1, des gars qui ont coupé des têtes de cochon en deux.
Ils ont coupé des têtes. Ça, je dois vous avouer, mais des têtes de cochon, ça, j'en sais rien.
Non, mais ça vous rend vachement singulier, ça peut plus encore que...
Je sais d'où pardon, je viens, hein. Quoi. Non, mais il n'y a pas de problème, mais sachez que... Non, mais c'est comme vous l'avez dit, si justement, voilà, mon papa, moi, je voulais ma première mobylette, donc il m'a dit, tu te payes la mobylette, pas de problème, tu te payes l'essence, tu te payes aussi l'assurance, donc à 14 ans, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on dit, bon, voilà, tous les matins, je me levais à 3h30, et face à face, à 4h du matin, j'étais face à face avec cette tête de cochon, et il m'expliquait, fais attention, parce que le cartilage de l'œil, il y a le noir qu'il faut enlever, et après, il faut garder le blanc.
Oui,
et
parce puis que après, le blanc, il est caoutchouteux, on peut le réutiliser. Pour
exactement. Donc voilà, quand vous avez 14 ans, vous savez d'où vous venez, et qui plus est, comme vous l'avez dit, c'était les premières semaines d'anniversaire, où mon papa avait inventé aussi un petit peu cela. À l'époque, c'était avec la dépêche du midi, en disant, ben, pendant 5 jours, on va faire l'anniversaire...
sur le parking.
Sur le parking. Et moi, j'ai vendu 4 tonnes de saucisses à 11,95 francs le kilo, je m'en rappelle. Je leur faisais goûter cru. J'avais 14 ans. Et comme vous l'avez dit ici, justement, j'étais l'attraction des 400 employés du magasin Mammouth, en disant, regardez, il y a le fils du directeur qui est en train de faire goûter la saucisse crue aux clients. Et en disant, mais elle a été faite la nuit. Au laboratoire de charcuterie, il m'insultait en disant, mais il va arrêter le gamin, parce que tous les jours, je vendais une tonne de saucisses.
Le fait de couper les têtes en deux, de faire le pâté, bref, de faire de la charcuterie dans le lourd, quoi. À l'époque, ça vous dégoûte pas?
J'ai des houles cœur, évidemment.
Ah, quand même, ouais.
À 4h du matin, quand vous avez rien dans le ventre.
Oui.
Et c'est là où j'ai arrêté de boire du chocolat le matin.
Ouais.
Vous vous imaginez? Ouais. Parce que, en plus, il fallait brûler les poils qui restaient, enfin bon, etc., etc.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est, mais j'en mange encore, vous inquiétez pas, parce que voilà, quand ce sont des produits sains, comme ça l'était, y a aucune raison. Voilà, ça fait partie de la vie, mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie.
Mais ça vous rend singulier quand même d'avoir fait ça. Dans ce métier-là.
Chacun a sa route, ouais. Chacun a son chemin. Vous avez commencé à travailler et voilà, il faut gagner sa croûte, entre guillemets. Mais on a cette valeur travail.
Mais c'est aussi ça qui contribue à vous rendre populaire depuis si longtemps, parce que vous êtes un des animateurs les plus populaires de TF1. Il faut réaliser, vous êtes là depuis combien de temps, TF1, à midi, au 12
ça, midi. Ça va faire la 20e année, ça fait 10 ans, 9 ans et demi d'Attention à la marche, et là 10 ans des 12 coups de midi.
Donc
il y avait 6 ans l'animateur des amours. Donc
je vais dire, ça a l'air d'être pour rire, mais en fait, les gens voient en vous que vous avez coupé des têtes de cochon. Je veux dire que vous êtes un type plus simple que la moyenne, plus... qui leur ressemble plus.
Non mais c'est ça, en fait je crois que le mot c'est la proximité, et c'est vrai que si ils peuvent se retrouver dans mon parcours, pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que par rapport à la tâche dont vous avez parlé pendant toute cette émission, il y a l'histoire, je ne leur ai pas menti, je ne leur ai rien caché, preuve en est, j'ai toujours cette tâche sur le nez, je leur montre tel que je suis, et ils se disent peut-être, voilà Reichmann, ben il ment pas.
Et puis c'est un provincial. Vous êtes profondément provincial.
Ouais, ancré totalement.
Même si vous n'avez pas vraiment de province d'attache, un peu la Bourgogne de vos grands-parents.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais voilà, chaque week-end, je peux pas supporter. Alors c'est.
Vous restez pas à Paris.
C'est une catastrophe pour mes enfants parce que les devoirs, les bouchons, les ceci, les cela, la fin de l'école.
La campagne.
Et moi, je voilà que ce soit à Toulouse, chez ma mère, que ce soit. Mais il faut que je parte de ça parce que ce phénomène de rester autour de cet anneau appelé périphérique, à l'intérieur, moi, je pète les plombs. enfin, vous aussi, vous êtes du Sud-Ouest, vous savez de quoi je parle.
Vos débuts à la radio, idem. Je comprends tout parce que, en fait, on a quasiment le même âge et on a vécu le même parcours. Mais, c'est, évidemment, ça m'a beaucoup intéressé de raconter Radio des Coteaux, Radio Cambos, tout ce moment des radios libres qui est une époque que personne ne pourra jamais revivre. C'était la radio artisanale avec les électrophones posés dans des tables en moquette. Pour faire un
on
peu radio.
On allait acheter des disques, Radio Chrysanthème, je me shoot à la salade et ça me rend malade. Et moi, j'ai essayé le poireau et ça me rend marteau. Rappelez-vous, c'était Pierre Péchin sur Radio Chrysanthème. Ah, aujourd'hui, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que l'ouverture, quand même, par rapport au podcast dont nous parlions, et vous, ça
mais
fournit...
la possibilité de bricoler à la maison.
Bien sûr. Je crois que chacun peut avoir sa chance, Christophe. C'est que, là, aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, vous vous filmez et vous balancez sur une chaîne YouTube. Vous pouvez créer, vous aussi, vos podcasts. Nous, c'était notre radio libre, vous et moi, à cette époque-là. Je crois que il y a de la place pour tout le monde si chacun peut saisir sa chance. J'ai la chance d'être le président des jeunes talents en France, des podcasts, des animateurs, des chroniqueurs, des journalistes depuis 8 ans avec Rémi Castillo. Et l'imaginaire est galopant de nos enfants, de nos jeunes qui arrivent sur le marché.
Vous avez raison. C'est moi qui suis un vieux con.
Non, maintenant vous êtes plus jeune que moi.
L'accident de 2 ans seulement, et encore, ça doit être 1 an et demi. L'accident. Il a laissé des traces encore aujourd'hui physiquement.
Bien sûr.
Ouais.
Attendez, regardez, vous voyez l'accident dont vous parlez.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc effectivement, l'avant-bras, il est troué.
Il est décharné, il est troué.
Voilà, j'ai plus la rade, j'ai plus rien. Voilà, on peut m'appeler Ikea. Je suis un peu en kit, mais
et après, dans la tête, il a laissé des traces.
Ouais, je veux pas. Je veux pas l'entendre ce bruit. Moi.
Ouais. Il est insupportable.
Le silence. Enfin, c'est vous qui faites de temps en temps des silences à la radio. Voyez ça, ce moment-là.
Faut pas. Alors, il faut expliquer que dans les radios privées, vous le savez, si on le fait trop longtemps, il y a un truc
c'est
automatique
fini, ça.
Qui se déclenche.
On revient à une émotion. On revient à une émotion. On revient à des silences. On revient à une proximité. Et je suis sûr que même par rapport aux réseaux sociaux, moi qui vois toujours le positif, ça va nous permettre de redécouvrir l'autre. À un moment donné, l'humain va bien sûr comprendre que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais. Je vais vous prendre dans mes bras à la fin de l'émission pour vous dire merci.
Vous avez compris pourquoi Jean-Luc Reichmann est un infatigable positif. Et optimiste. Son livre s'appelle « T'as une tâche, pistache », vous le trouverez en poche chez Michel Lafon. Merci beaucoup Jean-Luc.
J'ai juste envie de vous dire quelque chose.
Allez-y.
Merci.
Merci à vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.